C'est un drame qui secoue la communauté francophone de Toronto. Le samedi 5 juillet, Abdul Sarr, un adolescent de 14 ans, a été poignardé à mort dans le quartier de Beaches. Un geste d'une violence inouïe qui laisse une famille dévastée, mais aussi toute une communauté en deuil. Ce jeune d'origine africaine et franco-ontarienne était bien connu au sein de l'organisme La Passerelle ID, un centre communautaire qui œuvre depuis plus de 20 ans auprès des jeunes racialisés et des familles francophones immigrantes. Pour en parler avec nous, nous recevons Léonie Tchata, fondatrice et directrice générale de La Passerelle ID. Elle connaissait personnellement Abdul Sarr et sa famille. Bonjour Madame Tchata et merci d'avoir accepté de nous parler en ces circonstances difficiles.
Bonjour et merci de m'inviter.
Merci beaucoup. Alors ma première question, c'est vous avez connu Abdul Sarr et sa famille fréquentait votre centre communautaire. Comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle et que représentait ce jeune garçon pour vous et pour la passerelle?
Waouh, c'était déjà un choc parce que ce dimanche-là, j'ai deux fils, un d'ailleurs qui a le même âge que le petit Abdul. Qui m'appelle et me disant maman, il y a eu un incident, il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder. Je dis précipitamment comme maman, prenez le premier Uber, quittez de là immédiatement. Il faut déjà se dire que Afrofest, c'est quand même un moment important pour la reconnaissance et la présence des communautés africaines au Canada, à Toronto. Et c'est un moment historique où c'est l'occasion de retrouver parfois les familles ou les amis que nous n'avions pas vus depuis des années. Donc, c'est un endroit naturellement sain. Et donc, mes enfants arrivent à la maison. Je suis tout à fait tranquille, mais toujours inquiète de savoir qu'est-ce qui a pu se passer. Et donc, le lendemain, j'arrive au bureau et c'est là d'où la grosse et mauvaise nouvelle m'accueille. Au fait, c'est le petit Abdul qui s'est fait poignarder violemment, brutalement, en pleine, dans un McDonald's. C'est un choc. Je dois dire que toute l'équipe nous sommes mis à pleurer parce que non seulement nous connaissons la famille, la maman qui est fréquemment ici à la passerelle, mais ce petit Abdoul était un enfant sans problème, très poli, qui accompagnait sa maman au quotidien. Et d'ailleurs, quand il venait ici, il était toujours avec sa maman et son témoignage de la maman était tout le temps que heureusement que j'ai Abdoul, heureusement que je l'ai. Et pour nous, c'était, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et donc, nous sommes encore dans le choc. La famille est toujours dans le choc, la communauté. Et il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi cette grosse crise au sein de nos communautés. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système et c'est pas normal.
Justement, je vais rebondir là-dessus. Ce drame soulève beaucoup de questions sur la sécurité des jeunes, notamment issus de la communauté racialisée francophone. À votre avis, que révèle cette tragédie sur leur réalité ici à Toronto?
Au fait, un manquement flagrant des ressources adéquates pour ces communautés, pour ces jeunes noirs et racialisés. Il faut comprendre que le taux de pauvreté au sein des communautés noires, racialisées, n'est plus une question que nous devrions relever aujourd'hui. Cette expérience démontre à quel point les gouvernements, les systèmes sont en train de faillir ou faillent à leur responsabilité de prendre en charge et de façon juste l'avenir de tous les jeunes francophones ou l'avenir des jeunes canadiens, incluant celle des jeunes noirs, des minorités et des minorités raciales. On ne peut pas expliquer comment, pendant l'été, beaucoup de familles noires ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les camps par manque de moyens. Moi, je pense que il y a un sérieux problème dans le système. Ça, c'est un appel à une conversation beaucoup plus profonde. Et je pense que le décès de Abdul devait re-questionner un peu les rôles que jouent les politiciens, les systèmes, et voir qu'est-ce qui peut être fait. Comment ça n'arrive plus? Comment nous ne perdons plus un autre Abdul? Au fait, aujourd'hui, on va voir les jeunes, parce que ce sont les jeunes de 15 ans qui ont commis ce crime comme des jeunes délaissé, bandit. Mais au fait, pourquoi un jeune de 15 ans va arriver à ça? Il faut qu'on aille chercher derrière ces gestes le vrai vice sociétal qui existe actuellement au sein de nos communautés. C'est une chose mettre le blâme sur ces jeunes, mais c'est une autre chose prendre en main les responsabilités et de trouver des opportunités équitables et justes pour ces jeunes-là. Donc je perds mes mots parce que je suis encore dans le choc. On était à l'enterrement de d'Abdoul. Il y avait plus d'une centaine de membres de la communauté. C'est un peu un désespoir total. Et la maman est laissée à elle. Elle a perdu un fils. Elle est, oui, elle va être dans des processus. Mais avant de, c'est pas le but de punir. Je sais pas, je suis dépassée. Au fait, je perds mes mots parce que j'y parle, je vois ce jeune qui était tout calme ici, gentil à la passerelle. Je vois une maman qui pleure, qui est dans un désespoir, et je vois une société, une génération de jeunes. Moi, j'ai deux jeunes garçons noirs et je les vois sans avenir et il faut faire quelque chose.
Oui, vous parliez tantôt de responsabilité. Quand un tel événement se produit, on se tourne en général vers les institutions, vers les écoles, vers les services sociaux et même vers les organismes communautaires. Quelle part de responsabilité portons-nous collectivement, et qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer les choses, pour protéger ces jeunes?
Au fait, nous portons toute cette responsabilité collective. Je prends par exemple, il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif qui sont en manque de moyens financiers et qui sont prêts à offrir un service adéquat à ces jeunes-là. Les programmes d'été sont limités et les critères sont souvent très compliqués et beaucoup de familles noires ne peuvent pas souvent répondre à tous ces critères-là. La problématique d'avoir une communauté francophone dispersée dans le Grand Toronto et le fait de ne pas pouvoir se rendre à certaines, par manque parfois de moyens de token ou d'autobus, c'est un sérieux problème. Les familles survivent la nuit parce qu'ils travaillent la nuit et les enfants sont souvent délaissés à eux et le matin, ils sont au repos parce qu'ils doivent réenchaîner. Et donc, on a besoin de voir comment le gouvernement où les gouvernements mettent en place des plans et des politiques et des investissements touchant particulièrement les jeunes et de façon spécifique. La problématique d'un jeune noir versus d'un jeune blanc n'est pas pareille. Ils n'ont pas les mêmes enjeux et les mêmes besoins. Donc, c'est d'adapter les approches et c'est d'adapter les investissements pour permettre d'outiller la communauté, d'outiller ces familles et d'outiller ces jeunes-là à rester hors des problèmes qui peuvent arriver à des drames aussi terribles comme celui d'Abdoul.
Je vous sens très très émue et au-delà de l'émotion, vous êtes aussi une femme d'action et active. Quelles initiatives concrètes, vous parliez de mettre des choses en place, quelles initiatives concrètes le gouvernement ou les gouvernements doivent mettre en place justement pour que la mort d'Abdoul Sarr ne soit pas vaine? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place concrètement?
Premièrement, il faut une panoplie de services, d'activités, de camps d'été. Il faut offrir la possibilité aux familles, moyens ou pas moyens, d'avoir accès dans leurs différents quartiers aux camps d'été. Il faut créer des centres d'activités pour ces jeunes francophones-là. Dans le plan de 10 ans, de stratégie de la ville de Toronto, on a parlé qu'il manque des espaces francophones, des espaces où des centres où les jeunes peuvent venir s'amuser, jouer au bac. Il faut une étiquette réelle là-dessus. Je pense aussi qu'il faut développer des programmes de mentorat même pendant les années scolaires. Ces jeunes doivent avoir des opportunités. Peut-être qu'il faut aussi leur donner l'occasion de voyager d'une région à une autre région et de faire des regroupements et des échanges inter-régions pour créer des momentum. Je pense que le jeune Abdoul, dans son processus, vivant dans le quartier à Scarborough, des quartiers souvent à caractère, avec des défis sociaux très prononcés, ce jeune était dans un processus peut-être d'un espoir de vie, mais qui s'est retrouvé dans une embuscade terrible. Donc, on doit susciter encore chez ce jeune que c'est possible. Il faut des modèles, il faut des modèles positifs. Il faut créer ces momentum pour ces jeunes-là. Et ça, on doit le faire avec des investissements. Je pense que le Canada, c'est un pays extrêmement riche et ça dépend de la volonté des politiques pour vouloir dire on veut changer l'avenir de ces jeunes. Parce que la jeunesse francophone aujourd'hui, c'est la relève de demain. Et on n'a qu'à regarder les écoles francophones qui, c'est quoi la représentation? Au moins 75% viennent des communautés noires et racialisées. Et ça, qu'on le veuille ou pas, c'est la relève de demain. C'est ça la francophonie ontarienne de demain. Et donc, pour que nous soyons prêts, il faut investir dès maintenant pour mieux préparer ces jeunes-là.
Merci beaucoup, Léonie Tchata, d'avoir pris le temps de nous parler avec autant de sincérité. Nos pensées accompagnent bien évidemment la famille d'Abdoul Sarr, ses proches également, et merci pour tout.
Merci beaucoup, merci pour cette interview.
Cette entrevue a été réalisée par Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.